La Bible du diable par le vicomte d'Arlincourt. La bibliothèque de Stockholm, où je me promenais longtemps, a des manuscrits assez rares. Un d'eux captiva mon attention. Il était d'une dimension gigantesque. Il avait 2,5 pieds de long et pesait beaucoup plus d'un quintal. Le manuscrit renfermait, outre la Bible, une quantité de prières, des formules d'exorcisme et le portrait en pied de Satan. Je fis des questions sur ce livre qu'on appelle la Bible du diable et j'eus une légende à écrire. Il florissait au XIIIe siècle, dans un des monastères de Prague, un ancien soldat qui, après avoir perdu son bras gauche à l'armée, s'était voué à l'état religieux. Le moine Ignace, encore assez jeune, n'était pas précisément un saint homme, car loin de tendre à la maigreur et aux rudes austérités, il tournait à la graisse et au gai penchant. Les regards de la beauté, bien qu'il cherchât à le résister, le perçaient de part en part, à le clouer contre les murs de son cloître, où il tenait pourtant à vivre confiné. On remarquait qu'il soignait sa personne avec coquetterie, et qu'il s'était fait faire un faux bras qui simulait parfaitement le véritable. Bref, une de ces femmes qui ne sont nullement disposées à cacher les charmes dont la nature les a doués, lui tourna la tête un beau jour. Il se laissa aller, le malheureux, à essayer avec elle ce grand duo de l'amour qu'il est si triste de chanter tout seul, et de fil en aiguille, ou de fièvre en chaud mal, il en arriva, l'insensé, à violer les lois de son ordre. Grande rumeur au monastère. Ignace est traduit et jugé au tribunal de ses frères. Il n'est pas précisément coupable d'un crime, mais le crime, dit-on, est moins opposé à la vertu que le vice. Ignace est condamné à mort. Néanmoins, la pitié plaidait pour lui dans le cœur des plus inflexibles moines. Ignace avait toujours été si bon garçon, trop bon vivant, sans contredit, mais si naïf dans ses erreurs. Puis ce n'était pas un de ces esprits lourds et bouchés dont il faut frapper la tête avec un marteau d'airain pour en faire jaillir une étincelle. Il y avait au contraire en lui excès d'imagination et d'ardeur. Il était donc plus excusable qu'un autre. En outre, il revenait des camps où il avait été façonné à des habitudes anti-apostoliques. Finalement, le supérieur du couvent se mit dans la pensée que Dieu pourrait l'autoriser à gracier le coupable en faisant un miracle en sa faveur. Il va trouver le père Ignace. Sa révérence, humiliée et repentante, était prosternée à l'autel devant une des plus précieuses reliques du cloître. Cette relique était le bras de sainte Gertrude enchâssé dans un étui d'argent. Ignace priait avec ferveur. « Tu peux obtenir ton pardon, » lui dit l'abbé d'un ton solennel, « mais à une condition expresse, c'est que renfermé dans ta cellule et pendant l'espace d'une seule vie, tu écriras la Sainte Bible avec riches enluminures. Le livre tout entier de ta main devra être d'un format beaucoup plus qu'in-folio et contenir au moins 300 pages. »« Vous nommez cela un pardon ?» réplique Ignace avec une physionomie demi-railleuse et demi-consternée. « Grand merci !» Je ne regrette en ce moment mon bras perdu que parce que sans lui devant vous, je ne saurais battre des mains. Taisez-vous, interrompit l'abbé. Un mot encore, reprend le coupable après quelques moments de réflexion. Promettez-moi, si je parviens à accomplir le prodige en question, que vous mettrez à ma disposition, dès que je vous le demanderai, quelque saint objet du couvent, ne fût-ce que pendant un jour. Volontiers, je te le promets. Préparez-moi plume et encre. Fournissez-vous le parchemin ? Nous n'en aurions pas d'assez grand. Et où voulez-vous que j'en prenne ? Je ne sais. Dieu te soit en aide. Et le supérieur se retire. Il est clair dans tout ceci, se dit le père Ignace en remontant tristement à sa cellule, qu'on me donne à faire en une nuit un travail de plus de 2 ans. On est évidemment sans clémence et sans pitié. La bénigne proposition n'est qu'une impitoyable ironie. Brouillé pour le quart d'heure avec Dieu, je ne vois en vérité que le diable qui soit homme à me tirer d'affaire. Il a de si malignes ressources. Malheureusement, il faut payer cher ses services. N'importe, nous marchanderons. Il est fin, mais je suis rusé. Ici, la légende ne dit pas comment le révérend moine évoqua sa majesté diabolique. Au surplus, ce détail accessoire est peu à regretter, je suppose. Passons à la scène importante. Ignace et Satan sont en présence. Troupier devenu calotin, dit gaillardement le diable avec un sourire malhonnête et portant la main à ses cornes comme pour un salut militaire. Je te tire ma révérence. Orsac a-t-il pour ton service? Donne tes ordres, camarade. J'ai oublié de dire que le père Ignace tenait singulièrement au langage de la bonne compagnie et aux habitudes de l'extrême politesse. De là aussi la bienveillance générale qu'il s'attirait. Le style cavalier et le sans-façon vulgaire du diable l'ont en conséquence indigné. Il croit néanmoins devoir se contraindre, et se découvrant le front, en clair parfaitement éduqué, il réplique avec l'urbanité la plus exquise. « J'ai trop de savoir-vivre, monseigneur, pour me permettre de vous intimer des ordres. Veuillez vous donner la peine de vous asseoir. » C'est inutile, saint farceur. Au fait, et point de périphrase, je connais ta pensée secrète. Tu veux que cette nuit je t'écrive une longue Bible en son entier? Mais ne sais-tu donc pas, mon gribois tonsuré, que les plumes saintes et les phrases sacrées ne sont ni de mon ressort ni de mes attributions? Cela me brûlerait les doigts. Monseigneur peut mettre des gants, d'ailleurs chez lui depuis longtemps, on accoutumé au bon ton. Ah, tu railles, mon compère. Passons outre, que te faut-il? Pour commencer, 300 peaux d'âne. Quelle boucherie, mon doux prêtre! Il n'en faut pas moins, monseigneur, pour confectionner les 300 ou 400 pages en parchemin de mon volumineux manuscrit. Bas pour 300 ânes. Après, du noir, du vert, du rouge et du bleu pour les caractères, des feuilles d'or et d'argent pour les enluminures. Tu auras tout cela, moignon. Puis, monseigneur, que votre Altesse... Altesse, dis donc majesté, pas de monseigneur, je veux sire. Il me semble que pour un homme poli, tu es peu au fait des usages courtois. C'est égal, Ribaud, continue, sitôt que j'aurai pris la plume, vous écrirez librement. J'écrirai aussi bien que sifflait le grand serpent de Midgar sous les rameaux du père Yggdrasil. Votre majesté me fait là de l'érudition, sire, c'est trop d'honneur, assurément, je ne suis pas à sa hauteur. On n'arrive à ma hauteur qu'à force de descendre. Hé, mon gaillard, tu es en route. Allons, explique-toi maintenant d'une manière claire et précise. Si je fais ce que tu me demandes, que me donneras-tu pour ma peine? Sire, je ferai le portrait de votre majesté aussi ressemblant que possible et je le mettrai dans ma Bible. Je tâcherai qu'il n'y ait rien de repoussant pour les gens à préjugés et afin d'y ajouter plus de prix, je dorerai sa queue et ses cornes. Jolie pensée, mon aigriard. Mais cela ne saurait me suffire. Il me faut beaucoup plus, beaucoup mieux. Quoi donc? Il me faut ta personne. C'est me flatter infiniment. Cependant, cela mérite réflexion. Comment votre majesté entend-elle la chose? D'une façon fort simple, aussitôt que ton impudique révérence aura remis la Sainte Bible aux mains des frocards de Séan, tu reviendras dans cette cellule où tu auras soin de ne pas trop me faire bâiller aux corneilles à t'attendre. Et m'emparant de toi à l'instant, j'aurai le droit de te conduire où bon me semblera. Je comprends, votre majesté. Voici mes conditions à mon tour, sire. Vous n'aurez le droit de me saisir et de m'emmener que seulement pendant la journée qui suivra la confection de la Bible. Puis, rentrez dans ma cellule pour me mettre à votre disposition, je ne serai tenu de vous suivre que si vous me prenez poliment par ma main gauche pour me conduire vous-même avec courtoisie au lieu de ma destination. Votre Majesté sait combien j'attache d'importance aux coutumes de l'extrême civilité. Ceci est mon ultimatum. Je barre, s'écrie le diable ravi. Je ne discuterai pas sur de pareilles minuties. On te fera patte de velours. On te tirera même son feutre si on en a. Sur ce, présentement, signons. Et voilà le marché conclu. Peu d'heures après, dans la nuit, les 300 ânes étaient tués et leurs peaux tannées à ravir. L'immense Bible fut écrite. Il y resplendissait d'admirables enluminures. Le portrait du Seigneur Satan, d'une ressemblance inouïe, et œuvre du révérend père, figurait aux dernières pages. Le volume, en sa contexture, avait marché un train du diable. L'aube du jour pointait. Le supérieur mande le moine. « Eh bien, mon ouvrage est fini. » Et le condamné à mort dépose aux pieds de son juge l'incommensurable travail. Il y avait là un miracle patent, un incontestable miracle. « Te voilà sauvé, » dit l'abbé. « L'Éternel t'aura secouru. »« Oui, l'Éternel, » répond Ignace. « Mon père, à votre tour maintenant. »« C'est juste, que demandes-tu ? » ?»« Le bras de Sainte Gertrude, toute la journée. »« Tu l'auras. » La précieuse relique est remise au père Ignace. Ce dernier, après un long et secret travail sur sa personne, retourne à sa cellule sans crainte. L'esprit des ténèbres l'attendait, il ricanait d'un air triomphant. Tu m'appartiens, dit le démon, et pour l'éternité. Prends ma main gauche, répond Inès avec un sourire ironique. Je ne dois te suivre qu'à cette condition, et cela aujourd'hui seulement. Le diable, sans répliquer, veut saisir la main que lui tendait le moine. Oh, qui peindrait l'excès de sa rage? La main qu'il touche le repousse, elle le brûle et le dévore, impossible à lui de la prendre, il recule terrifié. C'était la main de Sainte Gertrude. « Misérable, je suis joué !» s'écrie le démon avec rage. « Il me faut fuir, la foudre est là !» Et l'enfer a repris sa proie. Ignace, la journée entière, garda à la place du sien le bras sauveur de Sainte Gertrude. Satan ne put rien contre lui, et depuis, selon la légende, Ignace vécut en saint homme. Le vicomte d'Arlincourt.